Le nom de la paracha Aharemot fait référence à la mort de deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, car ils étaient entrés dans le sanctuaire d'une manière non conforme. Cette paracha fait notamment le récit des cérémonies du Yom Kippour. Et d'ailleurs, tout le chapitre 16 du livre Vayikra, qui est contenu à l'intérieur de cette paracha Aharemot, est lu le matin de l'office de Yom Kippour. Voici un verset à propos du bouc émissaire qui sera le sujet de notre dracha. Le jour de Yom Kippour, le grand prêtre devait mettre en œuvre plusieurs mitzvot relatives à la loi du bouc émissaire. Et on nous dit « Velakach et shene aseririm ». Et donc il y a deux boucs, deux, et les deux boucs étaient équivalents en qualité, en apparence. Mais l'un était destiné à être sacrifié sur l'autel par le Kohen Gadol, l'autre était conduit dans le désert. Le texte dit exactement, Aaron impose ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il avoue sur lui tous les torts des enfants d'Israël, etc., etc. Et à la fin de cette petite section, il est écrit, le bouc porte sur lui tous leurs torts, c'est-à-dire les torts des enfants d'Israël, vers une terre aride. Donc le bouc est envoyé au désert et il est même précipité d'une hauteur. Le Midrash va éclairer la signification de cette mitzvah par un sens métaphorique. Il rapporte le mot bouc au nom Esav, Ish-Sahir. Esav, représentant du monde non juif, hostile, portera sur lui les péchés de Yaakov, son frère, nous explique le Midrash Rabbah. De la même manière que le bouc portera les transgressions du Ram Israël. Ravonot, c'est justement ce que l'on traduit souvent par péché. Le mot péché n'a pas le sens qu'on lui donne. Ravonot en hébreu, c'est plutôt comment dire, une transgression dans le sens de rater la cible. On devait faire quelque chose, on ne l'a pas fait, et ben dommage, c'est raté. Voilà, c'est pas la connotation chrétienne du mot péché. Donc Ravonot, on va traduire ça par leur transgression, et on voit que ce mot, il est composé de Ravon, Rayin Vavnoun, mais il reste quelques lettres dans ce mot non utilisé, Tam, Tav Mem, eh bien, qui veut dire intègre. C'est le qualificatif de Yaakov Abinu. Donc, on sépare les péchés de la qualité de l'intégrité. Pour le Midrash, bon nombre de péchés et de méfaits commis par le peuple juif sont imputables aux souffrances qui lui ont été infligées au cours des siècles de la dispersion et de l'exil. Au jour où nous implorons le pardon de nos fautes, à Yom Kippour notamment, n'oublions pas que cette section est lue à Yom Kippour, le matin de Yom Kippour, eh bien, au moment où nous implorons ce pardon, nous faisons endosser symboliquement nos péchés, nos infractions, par Sahar. Pas Saïr, le velu, c'est-à-dire Esav, prototype du frère ennemi, qui, depuis l'époque du patriarche Yaakov, est resté la cause de nos persécutions et de nos manquements, comme explique le Rav Munk dans Kol HaTorah. La loi du bouc émissaire est l'une de ces mitzvot de la Torah pour lesquelles nous ne disposons pas d'explication rationnelle. Pour Rabbi Eliezer, Agadol, Azazel désigne les démons du désert, ou bien le génie du mal, l'ange du mal. Les sages précisent qu'il ne s'agit pas d'un culte à l'intention d'Azazel. Ce bouc n'a pas été donné en l'honneur d'Azazel, mais afin qu'il témoigne en faveur du peuple juif et non en accusateur. Des explications rationnelles ou morales ont été avancées pour expliquer cette chose assez étrange que deux boucs sont choisis. L'un s'en va à la perdition et l'autre s'en va sur l'autel. Ramban, je veux dire Nahmanide, écarte les fausses impressions d'un rite à caractère idolâtre. Il fait remarquer que chaque bouc est offert, chacun d'eux, même celui qui est envoyé au désert, chacun d'eux est offert au nom de Hachem. Ou bien le deuxième au nom d'Azazel et non à. Il faut donc comprendre Azazel comme étant le mal sous toutes ses formes. Quant à Rambam, Maïmonide, il tente de rendre accessible à la compréhension logique cette mitzvah. On sait que le Rambam a tenté d'éclairer notre tradition à la lumière d'une rationalité. Eh bien, en l'occurrence, pour ce sujet des deux boucs, il explique qu'on ne devait point l'égorger, ni le brûler, ni l'offrir en sacrifice, on parle du deuxième bouc bien sûr, hein, celui qui était envoyé au désert, mais on devait l'éloigner autant que possible. Les péchés ne sont point des corps qui puissent se transporter du dos d'un individu sur celui d'un autre. Mais tous ces actes ne sont que des symboles, nous dit Rambam, destinés à faire pression sur l'âme, afin que cette impression conduise à la pénitence. Bon, donc c'est une explication rationnelle. Ceci sert à nous impressionner pour que on s'oriente résolument vers la Teshuvah. Rav Shimshon Hirsch, pour sa part, va considérer la valeur de cette mitzvah du point de vue symbolique. Il explique: toute la journée de Yom Kippour est placée sous le signe du renouveau total auquel le juif est appelé. Chaque homme possède, à chaque instant de sa vie, la capacité de s'orienter vers le chemin du bien ou du mal. Et ce jour de Kippour nous enseigne que toute option intermédiaire est impossible. Il n'y a pas trois boucs, nous dit Rav Hirsch, il n'y en a que deux. Et cela exprime que la voie du mal conduit au néant. On ne pourrait pas dire on va faire un petit peu ci, un petit peu ça, on est entre les deux. Non, c'est oui ou c'est non. Après cela, on a une interprétation morale du Rav Yosef Zvi Salant. Il considère que ces deux boucs sont une allusion à l'homme pendant Yom Kippour. On peut trouver deux personnes du même niveau, de même stature, et qui, s'ils prient ou quand ils prient dans la même synagogue, vivent dans la même communauté, et cependant, l'un profitera de la sainteté du jour de Kippour pour effectuer un retour sincère sur ses mauvais actes et prendre les décisions correctes pour l'avenir. L'autre, au contraire, qui est apparemment complètement équivalent au premier, eh bien, il va faire des tas d'actes, prier, s'agenouiller, ne pas rater une minute de la Tefila, etc., etc. Il agit exactement conformément à ce qu'il faut faire ce jour-là et ce que fait son voisin. Mais alors que le premier cherchait, à travers tous ses actes, à réparer les torts qu'il aurait pu commettre volontairement, eh bien, l'autre ne cherchera pas à modifier sa manière d'agir. Il ne sera pas dans une logique de teshuva. Par exemple, il continuera à dire tous les mots de la prière, mais d'une manière distraite. Ou bien il pense à autre chose pendant la lecture de la Torah. Les deux boucs sont de même apparence. Ces deux juifs, nous dit Rav Yosef Zvi Salant, ces deux juifs se ressemblent. Ils sont tous les deux présents. Tous les deux font les mêmes actes. Mais l'un acquérera de nouvelles dispositions morales et spirituelles pour l'année à venir. Il sera, entre guillemets, approché de son créateur. L'autre sera hélas conduit au désert. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, pourra l'attaquer sans relâche et même l'envoyer au fond d'un précipice. Ainsi, nous explique le Rav Salant, deux directions s'offrent à l'homme ce jour de Kippour et les boucs vont dans deux destinations, l'un vers l'autel, l'autre au désert. Ainsi, c'est une morale sur le jour de Kippour, l'homme doit prendre conscience des enjeux, faire les bons choix, il doit décider d'urgence d'abandonner ses mauvaises conduites. On pourrait arriver à ce même enseignement de Moussard en partant du nom de cette paracha. Le nom de cette paracha, on l'a dit au début de cette dracha, Aharé Mot, Aharé, c'est après. Eh bien, on peut y voir une allusion, un remèze très fort. Ce qui est important à Kippour, ce n'est pas tout ce que l'on a fait pendant ce jour-là, c'est-à-dire jeûner, bien sûr, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire se recueillir, c'est-à-dire se repentir. Mais tout cela, c'est très bien. Mais ce qui compte, c'est Aharé, ce qui arrive après ce jour est encore plus important. L'élévation spirituelle atteinte en ce jour ne doit pas rester sans suite les jours et les semaines suivantes. Voilà donc quelques éléments de réflexion autour du bouc émissaire et de cette section de la paracha de la semaine qui, de surcroît, est lue pendant le jour de Kippour.